France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Les entretiens avec Witold Gombrowicz par Gilbert Maurice Duprez. Diffusés en 1970, ils ont été réalisés 2 ans avant la mort de l'écrivain. Survenu avance en 1969. Witold Gombrowicz était né en 1904 près de Varsovie, dans une famille aristocratique. Il avait quitté la Pologne en 1939 pour l'Argentine. Les événements l'ayant empêché de revenir, il y séjourna 25 ans. Sa vie au milieu du peuple argentin et de l'intelligentsia polonaise émigrée, il l'a raconté dans son journal, qui s'étend de 1953 à 1966 quant à sa rédaction. Son premier roman, Ferdy Dörck, est demeuré son livre le plus célèbre. Il a déclenché de violentes polémiques. L'auteur a 2 fois été interdit, d'abord par les nazis, ensuite par les communistes. En 1964, il s'était installé en France avec sa compagne Rita. Au long de ses 2 premiers entretiens, Gombrowicz se dit essentiellement un exilé d'un peu partout. Il a toujours voulu être un écrivain universel et dépasser sa situation particulière de Polonais. Il ambitionne d'être assimilé par tous les hommes.
Witold Gombrowicz est mort des suites d'une très grave affection cardiaque dans la nuit du 24 au 25 juillet 1969 à Vence. Les entretiens qu'on va entendre ont été enregistrés en juin 1967. Alors que venait de lui être décerné le prix Formentor. Ils portent donc leur date. L'œuvre de Gombrowicz n'était pas encore close. Et plutôt que d'y voir une tentative d'exégèse de son œuvre par lui-même, nous souhaiterions qu'on considère cette série d'entretiens de bouts de conversation comme une suite d'esquisses en vue d'un autoportrait Witold Gombrowicz par Witold Gombrowicz.
Frappait d'en haut, transcendantalement, épouvantablement.
Ferdy Dörck, page 293-294.
Quel est cet endroit ? Alors elle tourna vers moi son pauvre visage enchanté et répondit tendrement et avec pudeur, blottie contre mon épaule, « C'est mon endroit. » Cela me saisit à la gorge. Elle m'avait amené là. Ainsi donc, oui, c'était à elle tout ça. Mais j'avais des envies de dormir, la tête me tombait, je manquais de force. Oh, se séparer, s'éloigner au moins d'un pas, la refuser, frapper de rage, dire quelque chose d'hostile, détruire, être méchant, pas être méchant avec Isabelle. Oh, être méchant avec Isabelle, je le dois, pensais-je. Somnolemment, la tête inclinée sur la poitrine. Je dois être méchant avec Isabelle. Oh, salvatrice et tonifiante méchanceté, froide comme la glace. Le temps presse. Je dois être méchant. Mais comment être méchant avec elle si je suis bon? Si elle m'embrasse et me pénètre de sa bonté, et si je la pénètre de la mienne? Si elle se frotte tendrement à moi, et si je me frotte tendrement à elle? Mais rien ni personne ne me viennent en aide. Sur ces prés et ces champs, parmi l'herbe timide, nous sommes ensemble, elle avec moi, et moi avec elle. Et rien, rien qui puisse me sauver. Je suis seul, et avec Isabelle, et avec le cuculandrum concentré, immobilisé dans son demeuré absolu, lucide et reluisant. Puéril et puérilisant, hermétique, énigmatique, enfoncé et amassé en soi et zénital dans sa culmination mortelle. Ô tierce personne, à l'aide, au secours, viens troisième homme, viens nous deux, viens salut, apparaît, que je m'accroche à toi, sauve-moi. Qu'il vienne ici tout de suite, vite, le troisième homme, Étrange, inconnu, frais, froid et pur, lointain et neutre, comme la vague de la mer. Qu'il frappe de son étrangeté cette intimité vaporisante, qu'il m'arrache à Isabelle. Oh, tierce personne, viens, viens, donne-moi le soutien pour résister. Laisse-moi me tenir à toi. Viens, souffle vivant, viens, force, entraîne-moi, tire-moi, éloigne-moi. Mais Isabelle se frotte à moi en redoublant d'affection, de chaleur et de tendresse. Et pourquoi cries-tu ? Qu'est-ce qui t'appelle ? Nous sommes seuls. Et elle m'approcha son visage. Et à moi, les forces me manquèrent. Le sommeil submergea la veille et je ne pouvais pas. Il me fallut embrasser sa gueule avec ma gueule, puisqu'avec sa gueule, elle embrassait ma gueule. Et maintenant, mais voyez, gueule ! Non, non, je ne prends pas congé de vous, gueules étranges d'étrangers, gueules inconnues qui m'allaient lire. Salut, salut, gracieux bouquet de parties du corps. Justement, maintenant que ça commence, arrivez, m'approchez, commencez votre pétrissage. Faites-moi une nouvelle gueule pour que j'aie de nouveau à vous fuir en d'autres hommes et à courir, courir, courir à travers toute l'humanité. Car devant la gueule, il n'y a d'abri que dans la gueule, et nous ne pouvons fuir l'homme que dans un autre homme. Et devant l'archipulum, pas de refuge. Poursuivez-moi si ça vous chante. Je m'enfuis, la gueule entre les mains.
Vitel de Gombrowicz, vous avez quitté la Pologne très tôt, en 1939. Et vous vous êtes trouvé en Argentine pendant une période assez cruciale de l'histoire de ce monde. À vous lire, une des premières choses qui frappe, c'est que non seulement votre œuvre est la réflexion d'un exilé, mais de quelqu'un qui se voulait, avant même l'exil, exilé. Est-ce que je me trompe ?
Certainement, dans certains sens, vous avez raison. Et mon histoire est celle-ci. Moi, j'ai quitté Pologne en 1939. Après, j'ai passé 23 ans en Argentine et je suis arrivé après à Berlin, invité par la Fondation Ford pour une année. Et après avoir passé cette année à Berlin, je me suis établi ici à Vence à cause de ma santé qui n'est pas trop bonne. Alors, si vous dites que je suis exilé, évidemment que oui. Premièrement, je suis un exilé politique. Parce que je ne veux pas revenir maintenant à cause du régime communiste en Pologne, mais aussi dans un sens spirituel. C'est-à-dire que je suis un écrivain, je veux en tout cas être un écrivain universel et dépasser ma situation particulière de Polonais. Même je ne voudrais pas être un écrivain européen seulement, de sorte que je plante toujours des problèmes universels. Et d'autre part, disons, ma philosophie est de dépasser la nation. Je suis dans un certain sens un antipatriote. J'exige que les Polonais, au moins l'élite culturelle de Pologne, l'adaptent une certaine distance envers Pologne, qu'ils ne soient pas trop patriotes, qu'ils ne s'identifient pas trop avec les Polonais. Enfin, dans un mot, j'exige qu'un Polonais soit un homme et non un Polonais. Alors, dans ce sens-là, naturellement, je suis un exilé un peu partout, parce que je ne suis jamais identifié avec les choses locales, les nations, les cultures, disons, particulières, mais plutôt je suis tendu vers une culture universelle.
Je remarque cependant que vous avez choisi pour votre exil l'Argentine, dont on ne peut pas dire qu'elle avait, du temps où vous y êtes arrivé, une culture nationale propre. Elle en avait une plutôt d'importation. Elle se gobergeait assez facilement de tout ce qui se faisait à Paris et ses grands hommes cherchaient la consécration parisienne. J'ai l'impression que, avant la guerre tout au moins, cela se passait approximativement de la même façon en Pologne. Et j'ai le sentiment que, beaucoup plus que d'une patrie, vous vous êtes banni, exilé d'une non-culture, d'une acculture, enfin, puisqu'on ne peut pas dire le mot culture, de quelque chose qui n'était pas la vraie culture.
C'est un problème très difficile parce que dans l'art, évidemment, un artiste doit être en même temps très lié avec son pays et sa culture héréditaire et en même temps très universel. Alors, disons Chopin, par exemple, il avait cette particularité qu'en même temps, sa musique était extrêmement polonaise et extrêmement universelle. L'avare de Molière, c'est un type parfaitement français, parfaitement concret dans tous les détails. En même temps, c'est un modèle des avares pour tout le monde, n'est-ce pas? De sorte que moi, je crois que chaque bonne littérature doit être à la fois extrêmement liée avec son terrain, comment dirais-je, natif, je crois, on pourrait dire ainsi, et en même temps extrêmement universelle. D'autant plus que la littérature est toujours une antinomie, elle doit toujours opérer par contraste. Quand on est très délicat, il faut être très brutal. Quand on est très timide, il faut être très audacieux, etc., etc. De sorte que ce sont ces contrastes-là qui définissent ma position. Moi, je suis très polonais dans ma littérature, mais sans ma volonté, sans les vouloir. Le fait même que je suis polonais, que je suis né en Pologne, etc., me lie absolument avec ce pays-là. Mais je n'ai fait aucun effort pour être polonais. Je vais être tout simplement un homme moderne, un Européen, disons, et même plus que cela, un homme moderne, tout simplement.
Une des choses qui m'ont bouleversé en lisant Ferdider, c'est que très souvent, vous en prenez à Slovaski.
Est-ce que vous connaissez Slovaski?
Je connais Cordian.
Ah, je vous félicite. Pour
je connais Cordian.
Ah, c'est et
très curieusement, j'ai retrouvé presque le même comportement de vous à Slovaski qu'il y avait de Slovaski à Mankiewicz, par exemple. Je ne dirais pas que la démarche est identique, mais au nom d'une vérité de la culture, vous et Slovaski, vous insurgez contre la culture antérieure.
Évidemment, mais il faut aussi dire que moi, je suis extrêmement violent, je suis un extrémiste dans mes relations avec la nation. C'est-à-dire que moi, je suis d'avis qu'il ne faut pas seulement ne pas être nationaliste, mais il faut être toujours par principe contre la nation. L'individu, pour moi, il est plus fort que la nation. C'est la culture individuelle, au moins sur le terrain artistique, qui doit dominer. De sorte que moi, par exemple, dans mon journal, je vais beaucoup plus loin que Slovaski, et même je crois que je suis peut-être l'unique à soutenir des thèses pareilles maintenant. Et en conséquence, par exemple, j'ai eu beaucoup de difficultés avec les Polonais qui m'ont attaqué très, très fortement en disant que je suis un traître ou un antipatriote, etc. C'est que du reste, c'est absolument vrai. Mais pour cela même, je suis dans ces choses-là beaucoup plus extrémiste que Slovaski, qui, enfin, il était quand même un patriote, il affirmait la patrie. Moi, non, moi, je suis contre.
Mais je crois, quant à moi, enfin, que, à tout le moins, à lire Ferdider, et vous êtes peut-être assommé qu'on vous bassine toujours avec cet ouvrage.
Non, c'est mon ouvrage basique.
Je crois que c'est la clé.
Oui, c'est la clé, évidemment.
Je crois que vous êtes un romantique. Peut-être le dernier, mais vous êtes un romantique.
Mais est-ce qu'il y a des hommes qui ne sont pas romantiques? Il ne faut pas prendre cette parole dans le sens d'une école littéraire. La nature humaine, c'est ainsi. On est romantique aussi. Moi, peut-être je suis plus romantique parce que je suis polonais. Les Polonais, ils sont en général, les Slaves, en général, ils sont romantiques, n'est-ce pas? Mais quand même, je trouve que sur ce plan-là, je peux me comprendre avec tout le monde. Tout le monde sont romantiques, sauf peut-être les auteurs du nouveau roman français. Comme l'homme en général est romantique, moi, je n'ai pas besoin du Byron ni de Slovaski pour être romantique, n'est-ce pas? Je suis romantique comme tout le monde. Mais je trouve que le domaine de l'art, c'est plutôt le romantique que le scientifique, ça évidemment.
Est-ce que vous ne reprochez pas, en fin de compte, à tous ceux que vous venez de nommer, de se draper dans un romantisme qui n'est que culturel, dans une hypocrisie qui n'est pas le véritable romantisme?
C'est difficile de dire, je ne crois pas cela. Il y a, évidemment, il y avait beaucoup de pauses dans ce mouvement chez Byron, par exemple. Mais pour moi, ce n'est pas moi. La littérature, à vrai dire, m'intéresse seulement comme une expression de l'homme. Alors, comme je vois que l'homme en général est romantique, alors je trouve que je peux l'être aussi. Je n'ai pas du tout besoin des écoles littéraires pour l'être.
Oui, autrement dit, la littérature n'est pas pour vous tellement une expression de l'homme qu'une expression surtout de Gombrowicz.
Mais oui, mais Gombrowicz, c'est un homme, je m'excuse. Quand même, c'est à peu près la même chose. Si moi, j'arrive à m'exprimer comme un individu concret dans toute ma réalité concrète, dans toutes mes passions concrètes, alors je suis un homme qui s'exprime et dans ce sens-là, je peux être assimilé, je crois, par d'autres hommes.
Vitold de Gombrowicz, vous vous flattez de pouvoir être assimilé par d'autres hommes. Est-ce que vous croyez qu'il y a une commune mesure, et là je suis en train de vous chercher la petite bête, mais est-ce que vous croyez qu'il y a une quelconque mesure entre Gombrowicz, qui est le fruit d'une tradition culturelle européenne, polonaise, apostolique, catholique, romaine, persécutée, d'un pays déchiré, etc. Et un écrivain, par exemple, mais ne prenons même pas un écrivain, prenons n'importe quel indien cultivé des environs de Bombay, Pune, par exemple. Comment Gombrowicz espère-t-il passer dans les veines de cet indien-là?
Et c'est très simple parce que moi, si je suis polonais, par exemple, ou avec une tradition catholique, ce sont ces choses-là qui me limitent. Alors c'est justement cela que je dois dépasser. Si moi, je faisais une littérature comme catholique, ou comme polonais, ou comme une personne définie, disons, par ma situation sociale, alors ça serait une mauvaise littérature. Je dois être tout cela parce que je suis cela. Je ne peux pas ne pas être un noble polonais, quoique de petite noblesse. Mais enfin, je suis cela par naissance. Eh bien, je le suis très bien. Mais il faut que je l'ai. Il y a ici aussi une antinomie, c'est-à-dire qu'il faut opposer à cela ma volonté d'être universel, absolument humain. Et tous les grands auteurs français avec cela, disons Montaigne, c'est un homme qui peut être absolument très bien assimilé par un Indien, et par un Américain, par tout le monde, n'est-ce pas? Alors toute la grande littérature aspirait à cela, et moi aussi, je ne dis pas que je suis une grande littérature, mais je dis que mon ambition s'est arrivée à cela.
Autrement dit, si vous permettez, l'attitude de l'écrivain, c'est celle de Cervantes, qui, comme vous le dites à peu près dans votre journal, écrit des choses impérissables en écrivant contre des choses périssables.
Or, je ne peux, moi, considérer le monde autrement que dans ma perspective personnelle.
Journal 1953-1956, page 31.
Il y a déjà fort longtemps, de me borner à commenter ma propre réalité. Je ne saurais, ne la connaissant pas, parler de la Pologne d'aujourd'hui. Le genre de journal intime que représente mon transatlantique concerne tout ce que j'ai vécu en 1939 face à la catastrophe qui accabla la Pologne. Un semblable règlement s'adressant à la Pologne du passé peut-il valoir pour la Pologne contemporaine? Dans votre lettre, monsieur, vous évoquez Don Quichotte. Et moi, je pense que Cervantes a écrit Don Quichotte afin de régler leur compte aux mauvais romans de chevalerie de son temps, dont il ne reste aucune trace. Don Quichotte, lui, est resté. D'où une leçon pouvant servir même à des auteurs de moindre envergure, à savoir que l'on peut, sur des choses périssables, écrire d'une manière impérissable. À travers la Pologne de 1939, mon transatlantique prétend toucher toutes ces
Pologne. C'est peut-être... ça serait un peu difficile de le dire, parce que, premièrement, moi, je suis une personne qui est à la fois très orgueilleuse et très humble, quand même. C'est-à-dire que je ne me considère pas du tout comme une personne supérieure qui puisse, par exemple, enseigner l'art de vivre ou solutionner des problèmes pour toute l'humanité, ou même décider, par exemple, si le monde doit être marxiste ou non, n'est-ce pas? Ce sont des choses qui dépassent mes possibilités. Alors, l'unique chose que j'ai à faire, c'est dire tout simplement ma propre réalité, là où je suis, pour ainsi dire, chez moi. Et ça, je peux le dire. Si moi, j'affirme que la soupe de la tomate, par exemple, je l'aime beaucoup, alors c'est une vérité, évidemment, j'ai le droit de le dire. Alors, moi, je veux parler seulement à mon propre nom. Ce qui, à la fois, est une attitude plutôt humble, n'est-ce pas, parce que je ne me considère pas un professeur, un conducteur des gens, mais à la fois, c'est aussi une attitude orgueilleuse, parce que c'est une attitude souveraine. Moi, j'ai le droit de dire ce que je suis et ce qui m'intéresse, ce qui m'appassionne. Et ma littérature est basée sur cela. Elle est une expression de mon moi. Alors, je ne suis pas, naturellement, je trouve qu'un écrivain ne peut pas être jamais prophète, ou peut-être il peut être, mais malgré lui. L'unique chose que l'écrivain doit vraiment être, c'est lui-même. Alors, tout le reste, ça vient, pour ainsi dire, par soi-même, s'il a de la chance, n'est-ce pas?
Soit, mais... Comment l'écrivain qui doit être lui-même, qui ne peut pas ne pas être lui-même, doit-il réexaminer et réenvisager, réinventer la culture qu'il a fabriquée? Parce qu'en fin de compte, vous êtes noble polonais, catholique, fruit de la guerre 14, arrivant à maturité à la guerre de 39, exilé.
Voilà que c'est une question bien... difficile et rusé que vous me posez ici. Naturellement, moi, je suis défini par ma culture, mais je l'accepte. Moi, je parle de la situation où je suis. Je suis dans la situation d'un Polonais, d'une personne qui a vécu des guerres mondiales, qui a subi une quantité d'influence. Alors, je suis tout cela. Mais quand même, si je mange la soupe de la tomate, je peux toujours bien dire qu'elle me plaît ou non. Alors, dans cette situation, moi, j'envisage le monde et j'essaye de trouver l'ordre que j'ai besoin dans celle-là, d'imposer ma personnalité, disons, aux autres, telle qu'elle est. Mais naturellement, non dans son sens limité, qui serait un sens passif, c'est-à-dire subir seulement des influences, mais justement comme une volonté de dépasser les influences. Dans ces choses-là, je suis très existentialiste, et comme, disons, dans le sens de Sartre, de l'éternel. On est dans une situation définie, on est défini, on a toujours un choix dans cette situation, de sorte que moi, je choisis dans la situation.
Je veux bien, j'adore la soupe à la tomate. Mais nous sommes dans un monde où l'art de vivre et de savoir manger et de savoir apprécier la soupe à la tomate est complètement bouleversé. Il y a d'un côté la soupe à la tomate et d'autre côté un certain nombre d'événements qui eux aussi nous conditionnent et on ne peut pas se contenter de la soupe à la tomate. Alors quel est entre ces deux événements disproportionnés l'art de vivre fondamental de l'homme moderne?
Écoutez-moi, peut-être, premièrement, il faut dire que mes ouvrages purement artistiques, ce n'est pas l'art de vivre. Moi, je ne suis du tout un professeur dans ce sens. J'écris des choses, je parle d'une situation, de cette situation naît une autre situation. et l'action se développe, le roman s'est fait aussi dire un peu par soi-même. Moi, jamais je ne sais pas ce que j'écrirai, je n'ai aucun plan, je n'ai aucune idée, disons, faite avant de créer une œuvre artistique pour l'imposer. Ça s'est fait par soi-même. Alors, dans mon journal, de nouveau, ce que j'ai fait, moi, je décris mes réactions. C'est-à-dire que je dis tout simplement, si je déteste Joyce, alors la première chose qu'il faut dire, c'est que je déteste Joyce. Après, chercher des arguments, pourquoi? Peut-être qu'il y a des arguments pour soutenir ce goût, n'est-ce pas, que j'ai, ou plutôt ce dégoût que j'ai pour Joyce. Alors, moi, mon journal, c'est une, disons, description de mes réactions personnelles, alors que ma littérature pure, ce sont des œuvres d'art qui se réalisent un peu par eux-mêmes à partir d'une certaine situation, d'un certain fait. Je dois dire que j'ai, avec les Français, c'est un peu difficile. Vous savez, parce que d'un côté, c'est évidemment un peuple extrêmement intelligent, avec une littérature extrêmement développée et forte. Mais de l'autre côté, les Français sont tellement définis déjà par sa culture, justement, par sa tradition, qu'ils assimilent peut-être avec un peu de difficulté les choses qui leur viennent de l'extérieur. Toute la littérature française moderne est dans une problématique qu'on pourrait définir comme celle de l'absurde, du social, de la mort, de la solitude, de toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Tandis que la mienne, elle est évidemment aussi dans cela, mais elle est un peu différente. Mes problèmes, mon façon de voir le monde, à travers justement de la maturité, de la jeunesse, de la forme, il se pose d'une façon un peu différente et conduit aussi à une prise de conscience différente. Alors ça n'a pas été assez assimilé jusqu'à présent
je regardais
par mes lecteurs français.
Je voyais ces fleurs des champs et tout à coup, je tombais dans un piège sur mon chemin.
Cosmos, page 148-149.
C'est un piège sans valeur. Stupide. Devant moi, deux petites pierres. Une à droite, une à gauche. Et un peu plus loin, sur la gauche, la tache crémeuse d'un coin de terre que les fourmis avaient retourné. Toujours plus loin, sur la gauche, une grosse racine, noire, pourrie. Le tout sur une même ligne, cachée au soleil, cousue dans la lumière, dissimulée dans cet air lumineux. J'allais passer entre ces deux pierres, mais au dernier moment, je fis un petit écart pour passer entre une des pierres et le petit coin de terre retourné. Ah, c'était un écart minime, rien du tout. Et pourtant, ce très léger écart était injustifié. Et cela, semble-t-il, me déconcerta. Alors, machinalement, je m'écarte à nouveau un tout petit peu pour passer entre les deux pierres, comme j'en avais d'abord l'intention. Mais j'éprouve une certaine difficulté, très faible, venue de ce que, après ces deux écarts successifs, mon désir de passer entre les pierres a pris désormais le caractère d'une décision, peu importante, bien entendu, mais d'une décision quand même, ce que rien ne justifie, car la parfaite neutralité de ces choses dans l'herbe n'autorise pas une décision. Quelle différence de passer par ici ou par là ? D'ailleurs, la vallée, endormie dans ses bois, étourdie dans son bourdonnement de mouches, paraît momifiée. Paix, somnolence, assoupissement, rêve. Dans ces conditions, je décide de passer entre les pierres. Mais la décision, après les quelques secondes qui viennent de s'écouler, est devenue plus décisive. Et comment décider puisque tout se vaut? Et donc je m'arrête à nouveau. Et furieux, j'avance à nouveau le pied pour passer, comme je le veux désormais, entre la pierre et le coin de terre. Mais je constate que si je fais ainsi après deux faux départs, cela ne sera plus une marche normale, mais bien quelque chose d'important. Je choisis donc la route entre le coin de terre et la racine. Mais je m'aperçois que ce serait agir comme si j'avais peur. Donc, je veux à nouveau passer entre la pierre et le coin de terre. Mais diable, qu'arrive-t-il? Qu'y a-t-il? Je ne vais pas m'arrêter ainsi au milieu de la route. Quoi donc? Lutterai-je contre des fantômes? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Un doux sommeil de chaleur solaire enveloppe les plantes, les fleurs, les montagnes. Aucun brin d'herbe ne remuait. Moi, je ne bougeais pas. Je restais là, debout. Cette attitude devenait de plus en plus irresponsable et même démente. Je n'avais pas le droit de rester là ainsi. Impossible! Je dois partir! Et je restais là.
Ces entretiens ont été diffusés pour la première fois le 14 et le 15 janvier 1970.